Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est une émission révolutionnaire que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Révolutionnaire en tout cas, une émission sur la Révolution. Guillaume Mazot, qui en connaît tous les soubresauts, va nous permettre d'essayer d'y voir plus clair sur l'épisode sombre entre tous des massacres de septembre.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Cédric qui veut en savoir plus sur l'origine des départements français.
Eh bien volontiers. Pour le moment, je vous propose de nous retrouver en septembre 1792. Un des mois sanglants de l'histoire de France.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
La déferlante révolutionnaire a profondément bousculé l'ancienne société. Elle a entraîné mille et mille changements, des changements étonnants, des vies qui semblaient toutes tracées ont été bouleversées avec une force à peine croyable. Mais si l'existence des uns a été malmenée par la révolution, pour d'autres, c'est aussi un champ de possibilités qui s'est ouvert. Des destins inattendus, des destins hors du commun ont pu émerger, destins de héros, de tribuns, d'hommes d'État, destin de victimes aussi. Ainsi, le cher Gosselin le Nôtre, vous savez, ce pape de la petite histoire que j'ai toujours plaisir à citer ici, ainsi Gosselin le Nôtre a-t-il retracé maints récits passionnants sous le bonnet rouge, comme il disait, et notamment l'histoire révélatrice d'un militaire emporté malgré lui dans un des épisodes les plus terribles, je vous le disais, de cette révolution, les fameux massacres de septembre. 1789, la révolution en est encore à ses débuts. Le capitaine François Journiac de Saint-Médard est âgé de 45 ans environ. Il officie au sein d'un régiment d'infanterie du roi qui est basé en Lorraine et comme tant d'autres, il est décontenancé par la tournure des événements politiques dans le royaume. On est en présence d'un homme d'une noblesse un peu douteuse, qui n'a jamais vraiment combattu et qui va voir sa paisible carrière militaire soudainement ébranlée. Lui d'un naturel sympathique, faut imaginer un homme gentiment hableur, proche de ses hommes, etc., le voilà confronté du jour au lendemain au désordre d'une mutinerie. En guise de justification, on vient agiter sous ses yeux un document aux idées novatrices, une certaine déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Autant le dire, Journiac est un peu dépassé. De son point de vue, il y a probablement un compromis sage, honnête à trouver face à cet esprit de rébellion. Il a alors l'idée d'imprimer pour ses hommes un discours plein de bons sentiments qui, pense-t-il, va permettre un retour au calme au sein du régiment. Seulement, les résultats ne sont pas du tout, mais alors, pas du tout ceux qu'il attend. Le Nôtre raconte, électrisé par tant d'éloquence, les chasseurs de Journiac se révoltèrent tout à fait et, au cours d'une marche militaire, le proclamèrent général sur le grand chemin de Nancy à Lunéville. Et le voilà donc notre modeste héros, placé malgré lui à la tête de la rébellion. Il est complètement effrayé, tout cela est trop pour lui, il finit par s'échapper et il choisit de venir s'installer à Paris, en catimini. Jamais il n'aurait pu imaginer cela, seulement quelques mois auparavant. On peut dire que pour lui, c'est une nouvelle vie, toute nouvelle, qui commence. La capitale est en pleine effervescence, ai-je besoin de vous le dire. Elle est prise d'une fièvre qui suscite un mélange d'excitation, d'espérance, d'angoisse aussi. Journiac, animé par sa nature légère, va décider à ce moment-là de fonder un journal qu'il alimente surtout, disons-le, en calembour, en vers un peu assez gentillet, c'est un peu l'almanach Vermot, la feuille de Monsieur Journiac. Le Nôtre note, il était persuadé, en vrai français badin et bon vivant qu'il était, que c'était aux passions déchaînées le plus actif remède. Il croyait éteindre cet immense incendie en versant dans la flamme un flacon d'eau de lavande. Mais le temps passe et la situation en France ne s'apaise pas du tout, bien au contraire. Nous voici maintenant à l'été 1792. J'ai passé beaucoup d'épisodes de la Révolution, évidemment, mais en 92, ça se corse singulièrement. L'été apporte son lot de bouleversements et vous le savez, le 10 août, les Tuileries, le palais où vivait la famille royale, les Tuileries sont envahies, le roi est suspendu, c'est la chute de la monarchie et le régime qui se met en place sur les décombres de cette monarchie millénaire est bien fragile. La société est encore très instable, elle est divisée. Quant aux armées étrangères, elles sont déjà en train de pénétrer en France. On peut douter de la capacité du nouveau pouvoir révolutionnaire à leur résister. À Paris, la tension est proche de l'insoutenable et la situation devient, disons-le, incontrôlable. C'est dans ce contexte difficile que le 22 août, l'ancien capitaine de Journiac a la surprise de voir ses hommes arriver chez lui rue Croix des Petits Champs. Il est placé en état d'arrestation. Alors on lui pose toutes sortes de questions. C'est un représentant du comité de surveillance de la commune de Paris qui est là à l'interroger. Et puis sans plus d'explications, il est envoyé en prison, à la prison de l'Abbaye qui se trouve tout près de Saint-Germain-des-Prés. Il faut imaginer le plus sombre, le plus austère des lieux de détention. Au moment où il y pénètre, Journiac fait malgré tout bonne figure. Il essaie de garder contenance, si vous voulez. Il est enfermé dans une grande pièce où il va lui falloir cohabiter avec une vingtaine d'autres prisonniers. La présence de ses compagnons est peut-être un soulagement pour lui au milieu de cette atmosphère complètement hostile et très inquiétante, disons-le. Journiac prit possession du lit qu'on lui désigna, précise le nôtre. C'était celui de Monsieur d'Angremont, à qui on avait coupé la tête 2 jours auparavant. Ceci donnait à réfléchir. Pendant cette première soirée, l'un des prisonniers, qui est pris d'une espèce de crise d'angoisse, d'un brusque désespoir, le prisonnier se suicide. Et vous comprenez l'angoisse qui maintenant est en train de se répandre dans la chambrée. Pour Journiac, il n'y a plus qu'à patienter en attendant de savoir précisément ce que l'on compte faire de lui.
De la bande originale du film La Révolution française, musique composée par Georges Delerue, un film dans lequel vous pouvez retrouver entre autres François Cluzet ou encore Claudia Cardinale. Vous avez décidé cet après-midi, Franck Ferrand, de revenir sur un épisode sanglant de l'histoire de France, les fameux massacres de septembre 1792. Nous sommes au cœur de la Révolution et le capitaine Journiac est emprisonné.
Et voilà, et nous voyons ces événements se dérouler sous nos yeux à travers le regard interloqué de Journiac. Le 2 septembre, ça fait donc une dizaine de jours qu'il a été arrêté, un parfum désagréable se met à flotter dans l'atmosphère de la prison de l'Abbaye. Après le dîner, le dîner à l'époque c'est le repas de la mi-journée, vous savez, les couteaux sont retirés par un guichetier. Le guichetier a l'air bizarre, son attitude est assez inquiétante. Et puis, environ une demi-heure plus tard, vers 2h30 de l'après-midi, les cris d'une foule, le rythme soutenu d'un tambour, se font entendre au loin, à l'extérieur. Et oui, il est en train de se passer quelque chose et l'on entend ce tumulte. L'on entend ce grondement, ce roulement de foule et de tambour qui se rapproche. Les prisonniers qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés se massent aux fenêtres et finalement, la foule est là, dans la rue, sous les murs de la prison. Elle est rageuse, cette foule. Elle est surexcitée. Elle accompagne des voitures dans lesquelles des personnes ont l'air captives. Soudain, un des prisonniers apparaît hors d'un des véhicules. C'est un prêtre. Il était perdu. Il demande grâce, mais la foule ne lui répond que par des cris. Et bientôt, on entend les lames qui grincent. L'homme s'effondre. La foule poursuit son avancée à travers les rues. Elle disparaît pendant tout un moment et les détenus de l'Abbaye ne peuvent qu'imaginer l'horreur de ce qui est en train de se passer là-bas, beaucoup plus loin. vers 4 heures de l'après-midi, nouvelle confusion. On entend de nouveau des grondements. Les personnes sont massacrées à l'entrée de la prison, dans la rue, notamment par de simples habitants des rues voisines. Et puis, de nouveau, le calme semble revenir. Et pourtant, ça n'est pas fini. Au crépuscule, Journiac et ses compagnons d'infortune entendent au loin « Il faut les tuer tous, tous !» Puis ce sont des bruits encore, une agitation qui provient de l'intérieur même de la prison. Et d'un seul coup, la porte de cette espèce de grande cellule, la porte de la salle de détention, s'ouvre. Je cite encore le nôtre. « On vint prendre un des compagnons de Journiac, un officier de la garde suisse du roi, nommé Redding. Il avait été blessé à la défense des Tuileries. Un guichetier le chargea sur ses épaules et le descendit dans la rue où il fut aussitôt mis à mort. » Vous imaginez les prisonniers qui ont vu tout ça par les fenêtres pleines de barreaux, barraudées. Cette violence les sidère, bien entendu. Ils essaient de se soutenir les uns les autres. Et à nouveau, il leur faut en passer par une attente terrible. C'est seulement au milieu de la nuit que la porte s'ouvre à nouveau. Et là, des hommes apparaissent. Ils sont très menaçants. Ils vont procéder au recensement des détenus qui sont là, encore présents. Que se passe-t-il alors dans le reste de la prison? C'est très difficile d'en être certain. Un tribunal, semble-t-il, a été mis en place. Quand je dis tribunal, on l'a compris, une cour de fortune a été mise en place pour juger les prisonniers. Le lendemain matin, deux prêtres, dont l'un est le père L'Enfant, un ancien confesseur du roi, entrent dans la grande pièce. Le nôtre poursuit. Ils imposèrent d'un geste grave le silence et le père L'Enfant, prenant la parole, annonça à ses compagnons que leur dernière heure approchait. Je le cite, le massacre s'organisait de nouveau dans le greffe de la prison et il les engageait à se recueillir pour recevoir sa bénédiction. Tous, d'un élan spontané, nous dit le nôtre, tombèrent à genoux. Tous joignirent les mains et courbèrent le front. Une demi-heure plus tard, un guichetier appela les deux prêtres qui sortirent silencieusement. Évidemment, les deux prêtres le savent, ils n'ont plus eux-mêmes très longtemps à vivre. L'angoisse des détenus monte d'un cran. On est là, on se regarde, on s'interroge, on tend l'oreille pour scruter le moindre indice. Journiac parvient quand même à dormir un petit peu, puis il tente d'organiser une espèce de défense d'éloquence dans sa tête. Vous voyez, il est en train de monter sa plaidoirie, si je puis dire, pour essayer de sauver sa vie. Si toutefois, à l'heure de se retrouver devant le juge, on lui laisse le temps de s'exprimer. Enfin, vers 23h, des hommes entrent dans la pièce. Ils appellent plusieurs des détenus, dont Journiac. Et les détenus en question sont menés de force à travers la prison. On les fait croupir tout un moment dans une espèce de pièce très sombre, sordide, qui a l'air toute voisine du tribunal avec de grands guillemets. Et là, Journiac parvient à sympathiser avec un gardien qui, comme lui, parle le languedocien. Ça aide, vous savez, c'est ce genre de solidarité régionale. L'homme lui dit « Vois-tu, si tu es un calotin ou un conspirateur, tu es flambé. Mais si tu n'es pas un traître, je réponds de ta vie, n'aie pas peur !» Est-ce qu'il faut voir là une lueur d'espoir? Même si les faits qui suivent n'annoncent rien de bon, on peut dire que Journiac se prend à espérer. Le groupe de détenus est reconduit dans la grande pièce et là, ils sont appelés un à un. Toujours le même enchaînement, ils disparaissent par la porte et puis quelques minutes passent et on entend des hurlements terribles à l'extérieur et qui sont révélateurs d'une mort atroce. Une mort parce qu'il faut bien appeler une forme de lynchage, c'est ça qui est en train de se passer. Vous imaginez la situation? On a les prisonniers là sous la main, on les a dans l'intérieur de la prison, on les fait passer devant une sorte de cour improvisée et donc dès qu'ils sont condamnés, on les livre à la vengeance d'une foule sanglante. Enfin, la porte s'ouvre, un nom retentit, Journiac Saint-Médard. Cette fois c'est très grave, cette fois c'est au tour de notre ami d'y passer.
Les massacres de septembre 1792, voilà de quoi vous parle cet après-midi Franck Ferrand sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission et envoyer toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous donc sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes donc en septembre 1792. Vous nous avez laissé juste avant les pubs, Franck, sur un suspense. Journiac est effectivement emprisonné. Il compte les heures avant peut-être son exécution. Que va-t-il se passer?
Eh bien, ça y est, notre Journiac fait face au tribunal improvisé dans le guichet de la prison de l'Abbaye. Il y règne une véritable fournaise, très difficile à supporter. À la tête de la petite cour, il y a un certain Stanislas Maillard, alors un personnage très connu des spécialistes de la Révolution, un homme qui n'a même pas 30 ans à l'époque et qui est clerc d'huissier. Il a été propulsé président de cette sinistre cour de l'Abbaye où il est assisté par des assesseurs. Journiac, il avait joué un rôle très important, Maillard, au moment des journées d'octobre qui avaient ramené à Paris la famille royale. Mais enfin bon, ça nous entraînerait un peu loin. Journiac, avant de passer lui-même en jugement, doit encore subir une épreuve. Il assiste juste devant lui au procès d'un homme âgé qui ensuite va lui laisser sa place, et l'accusé est très rapidement condamné, puis mené à l'extérieur de la prison pour être exécuté sur le champ par cette espèce de foule en colère. C'est pas très engageant, vous avouerez. Journiac s'avance, on l'interroge. Qui est-il? Quel est son métier? Sait-il pourquoi il est là? On lui reproche, d'après des dénonciations malveillantes, d'écrire dans un journal hostile à la Révolution. Alors Journiac fouille sa poche et il se saisit d'un papier qui atteste qu'il n'est pas l'auteur du journal en question. Lui ne rédige que de petits vers. Aussi, il assure qu'il n'a jamais émigré depuis le début de la Révolution. Bon, ça c'est un bon point, c'est vrai. Et là encore, il a en sa possession des documents qui permettent de le prouver. Journiac fait manifestement preuve de bonne volonté. Son attitude est directe, elle n'en est pas moins déférente. Bref, tout ça plaît dans sa faveur. Alors, devant ce tribunal où règne une forte agitation, où les interruptions sont nombreuses, le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas facile de capter l'attention des juges. Mais quand même, cet accusé a l'air assez désarmant de naturel. Il se montre tenace dans sa défense et il explique et il argumente, il justifie, il développe, il précise inlassablement. Le nôtre de nouveau. Il parle à temps qu'il dut les lasser. Pour en finir, renonçant peut-être à transformer en interrogatoire ce monologue audacieux, Maillard ôta son chapeau. « Je ne vois rien, dit-il, qui doive faire suspecter monsieur. Je lui accorde la liberté. Est-ce votre avis ?» Tous les juges s'inclinèrent. « Oui, oui, c'est juste. » Ainsi, pour Journiac, le cauchemar a l'air de s'achever. Il est libéré. Et au moment où il franchit la porte de la prison, il se trouve face à cette foule qui depuis des heures participe, vous l'aurez compris, participe activement au massacre. C'est un tout autre visage que lui montre la foule. Le nôtre précise, félicité, embrassé, porté de bras en bras, Journiac, tout étourdi, fut placé entre quatre porteurs de torches et traversa en triomphateur la horde enthousiasmée des massacreurs qui s'apprêtaient d'abord à le mettre en pièces. Quelle étrange soumission de la part de ses bourreaux. On eût compris un coup d'exaltation populaire, exterminant tout, sans choix, sans méthode. Mais ce sang-froid chez des assassins stupéfie. Et c'est vrai que c'est une des grandes questions qui se posent à propos de ces fameux massacres de septembre. Vous imaginez le pauvre Journiac, faible, flageolant, raccompagné chez lui. Ah, il va bien dormir pendant toute la nuit. Il prend soin après ça de se montrer dans Paris pour bien montrer qu'il a survécu au massacre. Il a conscience d'avoir vécu un événement hors du commun. Hors du commun par sa violence, par sa fulgurance, par son ampleur. Journiac ne tarde d'ailleurs pas à écrire le récit de l'enfer qu'il vient de traverser, et c'est ce qui nous vaut, tant de temps plus tard, plus de deux siècles après, d'en parler encore à ce micro, vous voyez, parce qu'il a bien fait de raconter son histoire, ce monsieur. Ça s'appelle « Mon agonie de 38 heures », l'ouvrage en question, qui va connaître un grand succès, puisque, tenez-vous bien, à une époque où vendre un livre à plus de 1000 exemplaires est tout à fait rare, il va en écouler quelques 200 000 exemplaires. C'est le best-seller de l'époque, tout simplement. Il faut dire que les massacres de septembre 1792 ont profondément marqué les esprits. Au total, on estime, et nous y reviendrons tout à l'heure évidemment avec Guillaume Mazot, on estime qu'environ 1200 personnes ont été victimes de ces massacres, dont d'ailleurs une forte proportion de prêtres réfractaires. Les prêtres réfractaires sont ces prêtres qui refusaient la constitution civile du clergé, qui refusaient de devenir en quelque sorte des fonctionnaires de la République. Ces massacres, dont il est difficile de savoir s'ils ont été prémédités ou s'ils ont été spontanés, c'est toute la question qui se pose et que nous allons nous poser maintenant, bien entendu, ces massacres sont le signe tragique de l'incroyable tension qui règne dans cette France dont on a trop souvent tendance à oublier qu'elle est un pays en état de siège, un pays en guerre, un pays qui est en cours d'invasion, si je puis dire. Vous imaginez qu'on vient de se débarrasser de ce régime extrêmement ancien, d'une monarchie qui régnait depuis tant et tant de siècles sur toutes les consciences, et d'un seul coup, il faut gérer la nouveauté, il faut gérer l'insurrection, il faut gérer l'invasion du territoire. Ça fait beaucoup de désordre, bien entendu. Alors Journiac, me direz-vous, eh bien on va entendre à nouveau parler de lui beaucoup plus tard, après toutes les périodes du directoire du alors il y a la terreur avant, hein, du directoire du consulat de l'Empire, bien entendu, et c'est au moment de la Restauration que notre rescapé, apparemment heureux du retour sur le trône du frère de Louis XVI, hein, le Bourbon Louis XVIII, c'est à ce moment-là que Journiac va entreprendre des démarches pour être promu colonel. Il va essayer de reprendre, comme beaucoup, beaucoup d'autres militaires, sa carrière là où elle avait été interrompue par les événements. Seulement, il semble que M. Journiac, et ça fait partie des héros de l'ombre que Gosselin le Nôtre a eu tant de plaisir à constamment exhumer, il semble qu'il tombe face à un fonctionnaire zélé qui lui demande de démontrer la réalité de son emprisonnement à l'abbaye. C'est pas le tout d'avoir raconté ces épisodes extraordinairement sombres. Est-ce que c'est vrai, somme toute? Alors Journiac produit, faute de mieux, le certificat de civisme que lui avait laissé le pseudo-tribunal révolutionnaire. Mais ça, vous imaginez bien qu'à l'époque dont nous parlons, en pleine Restauration, ça paraît quand même un peu suspect. Que le pire, la pire émanation de la Révolution ait délivré à ce monsieur un certificat de civisme, c'est pas forcément bon signe. Et forcément, Journiac va devoir oublier sa promotion. Oh, vous me direz, après tout, avoir survécu à l'une des pages les plus sombres de la Révolution, ce n'était déjà pas si mal. Bonjour Guillaume Mazot.
Bonjour.
C'est un moment vraiment très nébuleux, très sombre que nous allons essayer d'éclairer grâce à vous dans un instant. C'est une page passionnante en même temps et qui pose énormément de questions.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Quelques mesures de la marche lugubre composée par François-Joseph Gossec à l'instant sur Europe 1. Nous nous intéressons aujourd'hui au massacre de septembre 1792 et vous recevez Franck Ferrand, Guillaume Mazot, historien de la Révolution française, qui va d'ailleurs très bientôt éditer le journal d'Adrien Duquesnoy, député aux États généraux, chez Mercure de France, un livre qui sortira au printemps prochain.
Oui, un livre qui permet un récit qui permet de mieux appréhender les débuts de la Révolution, cet extraordinaire ferment qui monte de partout, ces idées nouvelles qui s'épanouissent, qui existaient déjà depuis longtemps, mais qui s'épanouissent, qui ont enfin droit de cité. On est dans la période, j'ai envie de dire, lumineuse des débuts de la Révolution. Et puis cette Révolution, elle avance, évidemment. Arrive 1791, la fuite de la famille royale, cette période très difficile, ce bras de fer permanent avec la Convention nationale, l'invasion des Tuileries, la chute de la monarchie. Et alors là, on se retrouve en août-septembre 1792 avec un pays qui est qui est assiégé littéralement et qui est en voie d'invasion et qui par ailleurs est tout nouvellement républicain, Guillaume Mazot.
Oui, on est dans une situation complètement exceptionnelle, telle que la France peut-être a presque jamais connue. La monarchie qui existait depuis quand même très très longtemps, hein, des siècles et des siècles, tout d'un coup n'est plus. Le roi n'est plus là, hein, il est déchu. Et en même temps, la République n'existe pas encore. Donc on est dans un interrègne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on est dans un climat de peur et d'incertitude maximale. Voilà.
Donc ça, c'est... Et cette peur, elle existe chez tous, chez les tenants de l'ancienne société aussi, mais disons-le, d'une façon plus générale, elle est partagée par le peuple. On ne sait pas, c'est la peur de l'inconnu dans un premier temps, c'est pas encore la peur des violences, là, c'est la peur de l'inconnu.
Bien sûr, c'est un peu les deux à la fois, d'autant que on est aussi dans un climat de guerre, le pays est en train de se faire envahir par les armées prussiennes et autrichiennes. Il y a la nouvelle de la prise de Verdun quand même le 2 septembre, c'est-à-dire que il se rapproche de plus en plus. Et puis on est dans un climat de guerre civile
à leur
pratiquement.
Tête, il y a quand même des ennemis purs et durs de la Révolution qui ont promis le châtiment à ceux qui ont fait du mal au roi et à la reine, hein, bien sûr.
Ces événements-là, hein, ces massacres.
Enfin, pas encore à la reine. Le roi va être jugé dans quelques semaines, en fait. Hein.
Oui, alors on ne le sait pas encore. On n'a pas encore trouvé la solution. Mmh. Justement, c'est ça qui pose problème. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, justement, c'est que, en fait, il y a une énorme peur de ce qu'on doute. On se doute de ce qu'ils vont faire, ces gens-là, et ces armées, quand ils vont arriver. Hein, l'histoire le montre, l'a montré auparavant. C'est-à-dire qu'ils arrivent pour mettre à bas la révolution et pour restituer le roi dans son pouvoir d'avant. À la fin du mois de juillet, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un imprimé très célèbre qui a circulé. Qui s'est fait connaître à partir du 1er août. C'est ce qu'on appelle le manifeste du duc de Brunswick. C'est un des principaux généraux prussiens. Et dans ce papier, qui a d'ailleurs été fabriqué dans les milieux des émigrés, probablement sous commande de Marie-Antoinette, eh bien, on menace de détruire Paris, de subvertir Paris, si le roi n'est pas restitué dans ses fonctions antérieures. Donc évidemment, il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire le massacre de la population, ça veut dire des violences extrêmes. Et ça, évidemment, ça crée une situation de peur absolument incomparable.
Ce sont des massacres prévisibles et des violences imaginaires, mais qui vont donner lieu à de vrais massacres et à de vraies violences, en l'occurrence.
Oui, alors pas si imaginaire que ça, parce qu'on sait très bien quand même que si l'ancien régime revient, ça veut dire la répression. La répression, elle était déjà potentiellement là dès l'été 89, quand le roi rassemblait 30 000 soldats autour de Paris, pendant les émeutes réveillons d'avril 89, quand les ouvriers en grève ont perdu 300 des leurs quand même parce qu'ils ont été réprimés. Donc, l'ancien régime, c'est quand même la violence, pas seulement fantasmée.
Oui,
hein,
non,
c'est
bien
un régime violent.
Et donc, mais en l'occurrence, Louis XVI n'a pas du tout fait tirer sur la foule, jusqu'à preuve du contraire.
Jusqu'à présent, il a toujours évité que ce soit pendant les journées d'octobre, au dernier moment, en juillet 89,
lors
mais il aurait peut-être pu le faire. Il a été conduit à pas le faire, mais peut-être il aurait pu le faire. Ça, on n'en sait rien. Et là, le 10 août 92, alors il n'a pas donné l'ordre de tirer quand les Tuileries été envahies, mais il n'a pas donné l'ordre de pas tirer non plus. Hein. Donc là, il est de plus en plus incertain. Et on est de plus en plus incertain
parce que
sur la manière dont ça
se radicalise et va de plus en plus mal, bien entendu.
Exactement.
Qui est au pouvoir concrètement à cette époque ?
Alors, concrètement, donc, l'Assemblée nationale joue un grand rôle. Le roi, jusqu'au 10 août, évidemment, détient l'essentiel du pouvoir exécutif avec les ministres. Et puis, il y a des contre-pouvoirs qui sont importants et qui essayent de faire le lien entre les pouvoirs légaux, que sont donc l'Assemblée nationale et le pouvoir exécutif, et puis, d'autre côté, le peuple de Paris. Ces contre-pouvoirs, c'est la Commune de Paris en particulier, et les sections parisiennes, c'est-à-dire les assemblées dans les quartiers. Et on sait très bien
c'est-à-dire que là, la population commence à avoir son mot à dire. C'est tout nouveau, ça, comme situation.
Ah oui, oui. Et c'est en particulier grâce ou à cause de la guerre, je ne sais pas comment dire ça, puisque le 11 juillet 92, c'est la patrie en danger, c'est-à-dire qu'on décide de mobiliser la population et de faire venir des fédérés, ce qu'on appelle des fédérés, des gardes nationaux qui vont se rassembler et qui pour la première fois intègrent les populations qui jusqu'ici, les plus pauvres, n'avaient pas le droit d'intégrer la garde nationale parce qu'ils étaient plus pauvres. Donc tout le monde veut participer.
Est-ce qu'on ne peut pas dire, alors il faut se garder de toute forme d'emphase, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est l'événement le plus important de la Révolution française et dont on ne parle jamais? C'est essentiel. Alors, c'est le changement de nature de la Révolution. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans un régime représentatif, même constitutionnel. On est dans la démocratie directe. Alors on va voir où elle va mener. Hein. Elle va mener au pire régime de toute l'histoire de France. Mais en tout cas, on est dans un moment où la population prend le pouvoir. C'est tout à fait extraordinaire ce qui s'est passé à cet été 92.
Je ne sais pas si c'est l'événement le plus important de la Révolution française.
C'est le grand tournant en tout cas.
En tout cas, c'est un des tournants très très importants qui va amener, alors je ne sais pas non plus si on peut appeler la terreur le pire régime de l'histoire de France.
Il y a quand même
le régime de Vichy. Mais en tout cas, non, ce qui me semble important, c'est de comprendre comment cet événement-là, qui arrive dans un climat de peur, pose des questions qui aujourd'hui frappe à la porte de notre présent. Qu'est-ce qu'on fait de la peur dans une période de crise politique? Qu'est-ce qu'on fait comment on y répond politiquement? Comment on y répond politiquement en instituant des institutions d'exception et le premier état d'exception. C'est ça ce qu'on appelle la terreur en réalité. C'est une tentative de répondre par la loi, alors dans une situation de guerre civile et une loi qui est exceptionnelle, qui est dérogatoire au droit commun, à la peur et à la potentialité de la violence populaire. Et ça, on le fait de manière la plus pragmatique possible et au coup par coup. C'est ça que racontent les massacres de septembre.
Mais oui. Et c'est cette gestion de la peur, en quelque sorte,
exactement,
qui va amener à la folie que nous venons de décrire. Alors, avec un nombre de victimes qui, proportionnellement, est relativement faible, 1200, mais des scènes, en revanche, qui sont quasiment indépassables en termes d'horreur, puisque ce sont des scènes de mise à mort et de lynchage, en fait, auxquelles on va assister. Alors, comment est-ce qu'on en est venu là? Je vous posais la question tout à l'heure de ceux qui gouvernaient. Je parlais pas d'avant le 10 août. Depuis le 10 août, justement, depuis que la monarchie n'est plus, qui a les rênes en main?
Là, on est clairement dans une situation de vide du pouvoir. Alors, il y a encore des institutions, l'Assemblée nationale, mais on prépare les nouvelles élections pour la nouvelle Assemblée qui devra être la Convention nationale, celle de la République. Il y a la Commune de Paris, le roi ne règne plus, voilà. Et donc, on est dans une situation d'interrégime, clairement. Et une partie des explications de ces massacres, c'est ça. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans ces massacres-là, c'est d'expliquer comment ces gens qui sont, d'ailleurs, vous avez lu le passage incroyable de Gosselin Le Nôtre, qui raconte, alors avec son point de vue à lui, hein, il était royaliste, il était donc c'est un point de vue très engagé contre la révolution. Hein.
Oui, bien sûr. Mais en plus, il voulait faire du drame, si je puis dire.
Voilà, il insiste sur le côté sombre. On a écouté la marche lugubre de Gossec, etc. C'est vrai, évidemment, c'est des violences abominables. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que ces massacres de septembre, ils posent la question de la violence et de la violence dans l'histoire de France et de la guerre civile dans l'histoire de France et dans la Révolution. Pourquoi ils sont si peu connus ou connus que à travers les historiens et les écrivains royalistes, c'est que les historiens républicains, et souvent universitaires, c'est pas qu'ils ont fait, ils ont écrit une histoire officielle, ça n'existe pas. Mais ils ont été gênés par cette violence.
Ils ont fait un peu l'impasse, quand même.
Ils ont été gênés. Oui. Il y a des tabous. Il y a des tabous dans l'histoire. Et cette révolution, c'est difficile de la comprendre avec les avancées incroyables, enfin, qu'on peut considérer comme des avancées, quand même, comme les droits de l'homme, etc. Et en même temps, ces violences. Et en fait, c'est pas si surprenant que ça. Si on regarde les révolutions qui ont éclaté dans le monde arabe il y a quelques années, sans tout comparer, parce que tout n'est pas comparable,
oui,
malgré tout.
Vous avez raison de dire tout n'est pas comparable, parce que je reçois pas mal de messages d'auditeurs qui font ce que j'appellerais, moi, des amalgames et des confusions. Il faut faire attention. Chaque époque est très spécifique.
Évidemment.
Il faut pas tout mélanger, tout comparer.
Évidemment.
Mais enfin, en effet, on est bien en présence dans le monde arabe d'un certain nombre de révolutions qui ont entraîné, elles aussi, de graves
violences. Et regardez, en Tunisie, il est très difficile de garder le pouvoir, de construire un pouvoir démocratique après une révolution, parce qu'on se retrouve très vite plongé dans des contradictions et devant des demandes populaires qui frappent à la porte. Et les massacres de septembre, c'est en partie ça. Après la répression du 10 août. Après aussi la fusillade du Champ de Mars qui a eu lieu seulement un an auparavant, dans laquelle des pétitionnaires, des manifestants ont été fusillés par le nouveau pouvoir révolutionnaire. C'est ça qui pose question. Eh bien, c'est une partie des sans-culottes, eh bien, décide ou prend peur aussi, hein, et décide de que la justice ne va pas assez vite et que peut-être
qu'on
il vaut mieux
faire justice,
se faire justice
manière.
Soi-même. Voilà, évidemment, ça ressemble aussi à de la vengeance plutôt que d'attendre la justice qui n'arrivera jamais.
C'est un peu le Far West avant l'heure, en plein Paris. On va venir justement au détail de ces massacres. Comment, quand ont-ils eu lieu et qui les a menés?
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, sur Europe 1, on s'intéresse au massacre de septembre 1792. Vous l'avez compris, on parle de révolution. Franck Ferrand, vous recevez Guillaume Mazeau, historien de la Révolution française, qui a d'ailleurs été historien pour une pièce de théâtre sur la Révolution française, Ça ira, fin de Louis, une pièce de Joël Pommerat, en tournée actuellement dans toute la France.
Qui est à Chambéry aujourd'hui, je crois. Donc nos auditeurs dans les Alpes peuvent ce soir, c'est ce soir la
oui, c'est le soir, ça dure assez longtemps, mais ça dure. Je crois que ça commence le soir, en début de soirée.
Oui, ça finit tard dans la nuit d'après ce qu'on vous...
Oui, mais ça passe vite.
Bon, donc Guillaume Mazeau, je me mets à la place des auditeurs qui connaissent pas forcément tous les détails de la Révolution. Trop souvent considéré comme un court épisode, la Révolution c'est toute une longue histoire qui d'ailleurs se prolonge bien après les dates officielles, bien après même le coup d'état du 18 Brumaire. Bon bref, en tout cas cette Révolution, elle connaît ses premiers moments terribles en septembre 1792. Pourquoi ces massacres? Comment, si on devait les expliquer à des enfants, si je puis dire, comment est-ce qu'on expliquerait ces massacres? Après tout, on est mercredi aujourd'hui.
Alors ces massacres, c'est difficile, hein.
Je suis conscient de vous demander une chose difficile.
Ces massacres, ils arrivent en grande partie à cause de la peur et du sentiment que cette peur-là ne va pas trouver de réponse, de réponse assez qu'on va pas être protégé par la justice. Et en réponse à cette peur-là, dans certains moments de l'histoire, particulièrement paroxystique, particulièrement dramatique, eh bien la violence peut éclater. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle peut éclater. Parfois, elle n'éclate pas. Bien souvent, depuis le début de la Révolution, la violence
les gens se montrent la tête entre eux,
éclater,
quand même, faut dire
elle,
ça,
elle oui. ne l'a pas. Oui, alors c'est pas un problème si nouveau que ça, puisque dès l'été 89, dès la prise de la Bastille, il y a eu des violences. Hein, et les députés en ont parlé. C'est-à-dire ce problème. En fait, les massacres de septembre arrivent aussi, parce que les députés n'ont toujours pas pu répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on fait de cette violence populaire? Et quelle réponse légale on lui apporte?
Sur un plan philosophique, il y a quand même quelque chose de l'ordre du sacrifice, quand même. C'est une onction du sang, d'une certaine manière. On crée un nouveau régime, une république, on va y venir dans un instant d'ailleurs, et comme par hasard, il faut le bain de sang qui va avec, d'une certaine manière.
Ça dit quelque chose, peut-être, de l'histoire, en particulier de France, pendant laquelle la conflictualité, le sang versé et la violence ont joué un rôle en raison de l'incapacité à trouver des solutions politiques et des situations d'accord. Alors évidemment, dans une révolution, c'est particulièrement visible.
Alors, quels sont ces cours qui se mettent, parce que je parlais de celle de la prison de l'Abbaye, mais il y en a eu plein d'autres, évidemment. Oui. Vous savez que ces espèces de tribunaux là qui naissent spontanément, qui en prend la tête, qui les anime?
Alors, c'est très intéressant parce que ça montre à quel point il y a eu évidemment beaucoup de violences. Bon, tout ça est spontané, hein, puisque ça naît de rumeurs, etc., etc. Mais il y a eu beaucoup de violences donc, qui se sont faites comme ça, de manière ritualisée quand même, hein, avec des massacres, notamment sexuels, des sévices sexuels, etc., sur les femmes, même si elles ont été plutôt épargnées par ces massacres. Mais il y a eu aussi des tribunaux. Pourquoi? Ça montre qu'il y a quand même une volonté de la part de ces massacreurs d'imiter, de remplacer la justice telle qu'elle ne s'exerce pas assez selon eux, mais de finalement rendre leurs gestes
rituels,
en quelque sorte.
Oui.
Rituels et même, pour eux, légaux. C'est une justice populaire dans leur esprit.
Ça fait un peu penser à l'épuration, voilà. Ça, après, au moment de la libération. Alors, on est dans cet état d'esprit, un peu.
Ça pose, en tout cas, ça pose le problème des sorties de crise. C'est-à-dire comment on sort d'une crise. Et comment on en sort? En essayant d'instituer un nouvel ordre. Le problème, c'est que là, évidemment, ces institutions, que ce sont ces tribunaux populaires, qui sont dirigés d'ailleurs souvent par des héros, des gens qui sont vus comme des héros populaires, des chefs de quartier.
On parlait de Maillard, par exemple.
Maillard, un vainqueur de la Bastille. C'était celui qui avait déjà été choisi, d'ailleurs, par les dames de la Halle pour aller trouver le député à l'Assemblée. Donc il est vu quand même comme une sorte de médiateur, de fondé de pouvoir. Et donc c'est à ces gens-là qu'on confie le soin de diriger ces tribunaux.
Des gens qui ont la confiance du peuple.
Exactement.
Du peuple au sens le plus bas possible. Hein,
oui, c'est ça. Et c'est ce peuple qui, rappelons-le, n'a pas eu le pouvoir et a été très déçu dans ses attentes depuis la Révolution. Ce peuple qui réclamait le droit de suffrage qu'il n'a pas eu, ce peuple qui réclamait, par exemple, la limitation des salaires, l'intervention économique sur les prix pour éviter l'inflation, par exemple sur le pain, sur les produits de base, tout ça, il n'a pas eu. Donc il y a aussi une demande qui ne sait pas, qui n'a pas trouvé de solution politique et là qui s'exprime par la violence.
Alors la convention qui se met en place et le régime exécutif qui va avec cette première république sur laquelle il faut absolument qu'on ait le temps de venir là quelques minutes, comment assume-t-il, si je puis dire, cette période de troubles extrêmes et de violence?
Il l'assume très peu.
Oui, voilà.
Il y en a quelques-uns, comme Robespierre, qui, sans excuser totalement cette violence, l'explique en disant c'est une forme de souveraineté populaire en acte et justement le peuple n'a pas été écouté par
ça c'est un peu le discours de Marat
d'une certaine manière. Marat va encore plus loin. Marat il appelle
au
massacre, hein. Il exerce une vraie responsabilité avec un calcul pour lui, il s'agit de massacrer ceux dont on estime qu'ils vont faire basculer la révolution dans les prisons en faisant un complot pour éviter un plus grand massacre encore.
Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que on sait qui a été tué. Ce sont toujours des personnes suspectées de royalisme, de menées anti-révolutionnaires. Ce sont beaucoup de prêtres et ce sont souvent, pas toujours, mais souvent des aristocrates. Bon.
Oui, et ça, même des prisonniers de droit commun, parfois.
Voilà. Et oui, d'ailleurs, qui ont été mis dans la même charrette, si je puis dire. Ça, c'est pour les victimes. Ça, c'est relativement clair. Maintenant, les bourreaux, on ne sait pas vraiment.
Eh bien, on ne sait pas vraiment, parce que d'abord, une partie des sources a disparu, que les témoignages ne sont pas toujours très fiables, évidemment, et surtout que ces gens-là, c'était des gens ordinaires. Tous les massacres de septembre, ça pose aussi le problème de comment ça se fait que des gens ordinaires, jusqu'ici sans histoire particulière, ne sont pas violents par nature, parce que c'est souvent aussi l'image qu'on en a donnée de ce peuple, hein, barbare, sauvage, etc. Non, Mais comment ils deviennent violents? Et pourquoi ils deviennent violents? À quel moment ils le deviennent? Et ça, évidemment, là, c'est en grande partie mystérieux encore, hein, puisque... alors, l'histoire peut quand même essayer d'expliquer ça, je vous dis. C'est les attentes déçues, et c'est le mélange de peur et de l'absence de réponse politique qui crée aussi parfois ces explosions incontrôlables et qui vont traumatiser, jusqu'après, hein, la jeune République. Qui, ça va rester une sorte de traumatisme originel de la République.
Est-ce que ça pourrait expliquer la dureté des institutions qui vont bientôt se mettre en place?
Bien sûr. Hein, c'est... Alors là, là encore, le passé frappe à la porte du présent, puisque c'est à la suite de ces massacres du septembre, pratiquement, que, eh bien, on va prendre conscience que peut-être il faut des institutions exceptionnelles. Il faut sortir du droit ordinaire, peut-être, pour répondre finalement à la demande de justice. Oui. Mais on est dans une situation à la fois de guerre, le pays est envahi de guerre civile, et petit à petit, on va créer ce qu'on va appeler la dictature de salut public, hein, ce qu'on a appelé plus tard la terreur, mais qu'il ne faudrait plus appeler comme ça. Le 10 mars 1793 est justement créé le tribunal révolutionnaire, c'est-à-dire un tribunal d'exception, tout simplement, qui doit juger les contre-révolutionnaires. Et c'est la fameuse phrase de Danton, hein, « Soyons terribles le 10 mars 1793 pour éviter au peuple de l'être ». C'est-à-dire, c'est à l'État.
C'est à l'État. On va se substituer à la violence populaire.
Exactement.
Mais en étant violent.
En charge. Voilà. En étant violent, bah non, on rend à la justice. Oui, c'est une justice d'exception.
Oui.
Et cette justice, elle se construit donc pragmatiquement. Et aucun programme établi. Vous savez, c'est toutes les visions noires de la terreur qu'il assimile à l'idéologie, une idéologie qui serait déjà là. Et non, c'est une réponse à quelque chose de très précis, des massacres de masse qui ont été perpétrés. D'ailleurs, ça fait un peu réfléchir aussi au présent. Nous qui construisons un État d'exception relativement fort.
En ce
avec
moment,
des,
oui.
Voilà. Dans un contexte certes terrible, mais moins dramatique d'une certaine manière. On n'est pas en guerre civile,
oui.
Et on n'est pas en guerre. Voilà, donc là, ça fait incontestablement réfléchir sur l'histoire longue de cet état d'exception qui appartient à l'histoire de France.
Oui, et les états d'exception, on pourrait faire d'ailleurs une histoire des états d'exception en France, ce serait passionnant.
Il y a un très bon livre récemment qui est paru de Vanessa Codaccioni.
Il faut le citer, Vanessa Codaccioni.
Oui. Sur l'état d'exception en France, pendant notamment à partir de l'exemple de la guerre d'Algérie.
C'est ça, bien sûr, puisque le dernier grand exemple qu'on avait en mémoire avant ce qui est en train de se passer en ce moment, c'était évidemment l'état d'exception de 1961 avec le général de Gaulle. En l'occurrence, mais avec une énorme différence, c'est que là, il y avait un pouvoir très légitime et très stable, hein, bien sûr. Là, on est tout à fait à l'inverse avec cette première république qui est en train de naître. L'idée républicaine était très vieille en France, il faut toujours le dire, parce qu'on croirait que c'est né comme ça du jour au lendemain, pas du tout. Il suffit de lire la littérature du règne de Louis XIV et de Louis XV pour voir qu'il y avait beaucoup de républicains depuis longtemps. Il y avait des républicains un peu partout en Europe aussi, même si l'expérience de Cromwell en Angleterre n'avait pas été très très brillante, mais il y avait les Provinces Unies.
Il y avait les Provinces Unies, et puis il y avait la
Suisse, oui, c'est vrai.
Il y avait l'Amérique aussi.
Et alors voilà.
Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a une idée républicaine qu'on fait remonter aussi à Rome, hein. C'est souvent l'exemple qu'on cite tout le
temps.
Mais cela dit, on ne sait pas ce que c'est. On sait que c'est un régime sans roi. On sait que c'est aussi un régime qui est fondé sur l'intérêt public et le bien commun et non pas la satisfaction des intérêts d'une famille, en particulier par exemple les Bourbons. Mais à part ça, on ne sait pas trop ce qu'on va construire. Et c'est aussi ça qui caractérise la Révolution française et cette période-là. C'est-à-dire qu'on construit un régime petit à petit, touche après touche, mais dans l'improvisation, j'allais dire, un petit peu constante.
Mais comment ce régime va-t-il naître de tous ces troubles, de toutes ces violences? En combien de temps se met-il en place véritablement?
Alors il se met en place en quelques semaines au départ, c'est-à-dire que la Convention est élue en septembre, puis après la bataille de Valmy le 20 septembre, qui est en réalité une semi-victoire, hein, mais qui est érigée en symbole aussitôt et qui est suivie.
Donc ça,
jours.
C'est le baptême officiel. Les massacres de septembre, c'est le baptême officieux, on peut
Alors,
dire.
On pourrait dire que c'est une sorte de traumatisme anthropologique qui fonde cette République dans le sang, un sang fondateur, etc., mais aussi un sang très problématique, puisque... Même des gens comme Robespierre, qui d'ailleurs au départ était opposé à la peine de mort en 89, devient partisan de la peine de mort, devient partisan d'une justice d'exception par pragmatisme. Parce qu'il dit, finalement, pour éviter cette violence-là, pour éviter que la violence ne se déchaîne, y compris celle des révolutionnaires d'ailleurs les plus radicaux, eh bien, ok, tant pis, on va maintenant soutenir la peine de mort, on va soutenir une justice qui est très dure, mais qui en même temps doit être très légale et très vertueuse. Bon, cette trajectoire de Robespierre montre bien que, finalement, devant des événements imprévus, eh bien, on peut changer un peu par pragmatisme, pas forcément par idéologie.
Ce qui est très difficile, c'est de se remettre dans l'état d'esprit d'une époque à chaque
c'est
fois.
Ça.
Et là, en l'occurrence, on est dans une époque où il faut aller vite, où il faut prendre beaucoup de décisions.
Oui,
encore une fois, le territoire est entamé maintenant. On ne sait pas combien de temps ces institutions très balbutiantes vont pouvoir tenir. Il faut aller vite, il faut se débrouiller, on improvise. Et cette part de l'improvisation, elle est essentielle à l'époque.
Elle est déterminante.
Hein.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs, on fait la guerre. C'est pour ça que cette République fait la guerre.
Parce qu'évidemment, Montesquieu, Rousseau, tout ça, ils ont le dos large, si je puis dire. Mais dans la pratique, il faut bien trouver des
institutions. On invente la République et surtout, on essaye de la faire survivre, alors que, en gros, peut-être il y avait à peu près 90% de chances qu'elle ne dure pas très longtemps, en fait. Ça, on l'oublie, hein. On est habitué à cette République. Mais c'est un pari incroyable. Et pour la faire tenir, eh bien, il y a le pari de construire petit à petit une dictature. Une dictature sur un modèle romain qu'on appelle la dictature de salut public, dans laquelle finalement la séparation des pouvoirs va être suspendue, les libertés vont être suspendues.
Régime d'exception.
Voilà. Sauf que la différence, notamment avec aujourd'hui, c'est que à la fois c'est très dur du point de vue des libertés, mais en même temps on fait une politique d'égalité sociale, de réduction des inégalités, de redistribution maximale. Il n'y a pas une période, donc c'est les premiers projets d'éducation nationale obligatoire et gratuite, c'est l'ancêtre de la sécurité sociale. Donc on fait les deux à la fois. Politique d'une, avec un anachronisme qu'on pourrait dire très sécuritaire, et aussi politique très sociale. Là aussi, à mon avis, on pourrait peut-être méditer.
Finalement, vous avez de la Révolution française et d'une façon plus générale de l'histoire une conception très très utilitaire et très très moderne, Guillaume Mazot. C'est très intéressant votre façon de voir les choses.
Aussi, évidemment, à la radio, on s'autorise parfois à.
Mais vous avez raison, c'est ce qui est intéressant.
À penser le présent à travers le passé. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on est historien, mais avec beaucoup de précautions et de méthodologie.
Puisque nous étions quasiment dans la pédagogie cet après-midi, elle dure jusqu'à quand cette révolution? Réellement. Est-ce qu'elle s'arrête à Thermidor avec la chute de Robespierre? Est-ce qu'elle s'arrête à la fin du Directoire avec la prise de pouvoir du général Bonaparte? Est-ce qu'elle s'arrête à la fin du consulat avec la transformation du consul du premier consul en empereur? Est-ce qu'elle s'arrête après l'Empire? Ou est-ce qu'elle englobe tout ça jusqu'à la fin du 19e siècle?
Je crois qu'il faut vraiment aller jusqu'à la fin du 19e siècle. Une révolution, même si c'est difficile de faire des généralités, c'est toujours très long. On pourrait même considérer que la Révolution américaine s'arrête à la fin de la guerre civile, dans les années 1860, et que la Révolution française, qui commence en 1700, allez, à la fin des années 1780, finit peut-être à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire à la fin des années 1870, quand la République fait un petit peu le consensus, ou plus ou moins le consensus.
Merci beaucoup Guillaume Mazot, c'était comme
Merci
toujours passionnant. Le journal d'Adrien Duquesnoy, donc député aux États généraux, va bientôt paraître dans la très belle collection Le Temps Retrouvé du Mercure de France. Et puis, si vous habitez dans la région de Chambéry, ce soir vous pouvez aller voir Ça ira fin de Louis de Joël Pommerat. C'est une pièce de théâtre sur la Révolution française qui est actuellement en tournée.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, c'est un retour aux origines et une question que vous pose Cédric sur le site europe1.fr.
Voilà. Ça, c'est sur le site directement,
Exactement.
Ça existe aussi.
Pourriez-vous nous expliquer, Franck, comment s'est passé le découpage de la France en départements?
Oui, vous savez, une petite chose, on en parlait depuis très longtemps, hein, de ces départements. D'ailleurs, le terme, il date de 1665, sous le règne de Louis XIV. C'est à ce moment-là qu'on prévoit cette départementalisation du royaume, pour des raisons purement fiscales à l'époque. Et Louis XVI, en juin 1787, par un édit, a recommandé cette division des provinces en entités plus petites. Donc, c'était dans l'air, si je puis dire. C'est évidemment la Révolution qui va faire advenir cette réforme parmi tant et tant d'autres. Ces départements sont beaucoup plus efficaces, vous savez, beaucoup plus rationnels que ne l'étaient les anciennes divisions et subdivisions. C'est l'abbé Sieyès qui a eu l'idée de tout ça, formalisé cette idée en tout cas. Et c'est Touret qui va présenter en septembre 1789 ce projet devant l'Assemblée constituante, qui va prévoir donc la création de 80 départements. La loi est du 22 décembre 89. La France est découpée en 83 départements en février 1790. Et tout ça est effectif dès le 4 mars 1790, c'est-à-dire somme toute très tôt. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'aujourd'hui la France compte 101 départements? Je pense que ça, tout le monde doit le savoir à peu près. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que depuis mars 2011, nous avons un département de plus. C'est Mayotte qui a tendance souvent à passer à la trappe. Je ne sais pas si on nous écoute à Mayotte, mais je les salue.